piazza Milano.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Auditeurs, auditrices de la radio Nzambaga Tekakawe, bonjour, bonsoir, c'est la position du globe à partir de laquelle vous nous suivez. C'est le grand rendez-vous de la rétrospective hebdomadaire de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Niongere, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Encore une fois, bienvenue, débutons cette rétrospective de l'actualité par la page politique. 10 députés du parti CNR qui se réclament être des bureaux politiques ont nommé à travers un communiqué de presse ce lundi l'honorable Marie Immaculée Nachowakimvuna au poste de président par intérim du parti CNL. Ce député avait été suspendu comme membre de l'organe national de son parti et avait pris la décision par après à leur tour de suspendre le député Agathon Rwasa à la présidence de son parti. Terence Manambona, qui fait partie de ce groupe de 10 députés, indique que lorsque le secrétaire général de ce parti refuse de diriger le parti par intérim, des textes du parti stipulent qu'il doit être remplacé par le doyen d'âge dans le bureau politique du parti. Suivez-le.
Vu la décision du 4 juillet 2023 portant mesure de suspension de l'honorable Agathon Rwasa aux fonctions de président et représentant légal du parti CNL, tandis que le secrétaire général du parti CNL s'est désisté par sa déclaration publique sur la voie des ondes et via son compte Twitter, a assuré l'intérim lui assigné à travers l'article 3 de la décision du 4 juillet 2023 en conformité avec l'article 49 des statuts et l'article 38 du règlement de l'ordre intérieur du parti CNL, considérant que le secrétaire général a été officiellement notifié de la décision du 4 juillet 2023, lui rappelant que c'est bel et bien lui à qui les textes légaux confèrent la responsabilité de l'autorité intérimaire, constatant le vide institutionnel créé par la vacance du poste de président du parti et l'absence de l'autorité intérimaire, conformément à l'article 39 du règlement de l'intérieur du parti de 2019, nous décidons qu'il est remplacé dans cette tâche par le bureau politique présidé par le doyen d'âge. À cette date, le doyen d'âge est l'honorable Marie Immaculée Nachowakimvuna, secrétaire nationale à la promotion féminine. Ainsi, par le présent communiqué, nous demandons à l'ex-président du parti et au secrétaire général de mettre à la disposition de l'autorité intérimaire, et cela dans les plus brefs délais, tous les outils de fonctionnement du parti CNL. Au bureau politique, par le biais du doyen d'âge, de s'adresser au ministre ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions pour lui demander de permettre la tenue des réunions du bureau politique légal de 2019 à la permanence nationale du parti, dans le respect de l'esprit et de la lettre de sa correspondance du 2 juin 2023, dans le souci de relancer les activités du parti dans tout le pays.
Pour le secrétaire général du parti CNL, Simon Bizimungu, ce groupe de 10 députés n'a pas les prérogatives ni le droit de décider en lieu et place des organes légaux du parti CNL et par ailleurs, ils ont été suspendus du bureau politique. Simon Bizimungu indique que le parti CNL n'est pas un parti du bureau politique et demande à ce groupe de 10 députés de se ressaisir. Je vous propose de le suivre.
Je me dis que ces gens-là, ils se trompent et ils se sont trompés depuis le départ. Quand ils ont dit qu'ils ont suspendu le président du parti et disant qu'il met en place le secrétaire général pour assurer l'intérim, ils n'ont pas ces prérogatives, ni de suspendre le président du parti, ni de donner l'intérim au secrétaire général. Le secrétaire général est là, il a été mis en place par le Congrès et c'est le Congrès qui va le suspendre. Et non pas ce groupe de 10 individus qui se dit du bureau politique, alors qu'ils sont déjà suspendus dans son bureau politique. Déjà qu'ils se comportent de la sorte, je me dis qu'ils se sont montrés comme des rebelles au parti. Et là, nous n'avons aucune crainte que nous allons perdre le parti. Parce que le parti CNL, c'est pas un parti du bureau politique, de 10 individus ou 100 individus. Le parti CNL, c'est un parti des membres Inyangamugayo. Nous demandons à ces gens-là, probablement qu'ils sont fatigués par la politique, qu'ils se mettent quelque part et qu'ils laissent la politique. Parce que ce qu'ils font et ce qu'ils disent sont diamétralement opposés aux idéaux du parti CNL. Ça m'étonnerait si ces gens-là, pour le moins, se disent désignés à Mugayo. Parce que ce qu'ils font et le comportement qu'ils affichent ne témoignent pas d'être alignés à Mugayo digne de nous.
Et page justice de cette rétrospective, détention depuis 16 août de cette année des trois magistrats du tribunal de grande instance de Bururi. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Leur détention est consécutive à une décision du chambre de conseil du tribunal de grande instance de Bururi procédant à la libération de 6 personnes poursuivies dans l'affaire des attaques à la machette contre les habitants de la commune Bururi. Leurs collègues magistrats crient à l'injustice. Le point avec Eddie Claude Nininaz.
Les trois magistrats du tribunal de grande instance de Bururi sont connus sous le nom de Nizigimana Léonard, Ngendakumana Antoine et Mukeshimana Irène. Ils ont été arrêtés après avoir rendu une décision judiciaire qui libérait 6 détenus à la prison de Mouremre, accusés d'avoir blessé des gens à la machette en commune Bururi. Cette décision avait été rendue à la prison centrale de Mouremre le 20 juillet où les trois juges siégeaient en chambre de conseil. Dans cette audience, le siège a entendu les accusés écouter les témoins à charge. Ces derniers ont avoué les avoir chargés sous pression et bastonnade. Le siège a constaté qu'ils n'avaient aucun indice de culpabilité et a décidé de les libérer. Certains parmi les collègues de ces magistrats disent qu'ils sont détenus justement car ils sont victimes d'avoir fait correctement leur travail, comme le témoigne un parmi eux.
L'histoire de la justice burundaise, qu'un juge jusqu'à présent n'avait été jamais arrêté ou condamné pour avoir pris une décision quelconque, une décision judiciaire. Quand le juge, dans l'exercice de ses fonctions, il est dit dans l'article 214 de notre constitution, que dans l'exercice de ses fonctions, le juge n'est soumis qu'à la constitution et à la loi. Les trois juges sont accusés de complicité dans la sécurité intérieure de l'État. Alors, complicité n'a pas de place parce que l'article 68 du code pénal, livre 1, dit qu'ils sont considérés comme complices d'une infraction qui, sans participation directe à celle-ci et sans que le concours ne soit indispensable, motivé à l'action, pardon, promesse, menace, abus d'autorité, de pouvoir, machination, l'artifice, coupable ou donner des instructions à la commettre, procurer des armes, assister aux terroristes, ou bien qu'ils auraient accordé des lieux de retraite, des réunions. Ils sont considérés comme complices pour une infraction qui a été commise il y a 6 mois. Des infractions qui ont été commises au cours du mois d'août de mars et d'avril et qu'au mois d'août, les juges sont arrêtés pour s'être prononcés sur le sort de ceux qui ont été détenus. Dans le temps normal, les juges sont incarcérés injustement.
Vous saurez que un procès de flagrance pour les trois magistrats est fixé pour mardi 22 août à Bururi.
Merci à toi, Eddie Claude Nininazwe, pour ce reportage. Violation grave des droits de l'homme. 8 personnes ont été portées disparues par certains agents du Service national des renseignements militaires G2 en 2021. Et ces derniers étaient convaincus qu'ils ne seront pas poursuivis de leurs actes. C'est du moins le contenu de la déclaration sortie ce jeudi dernier par le Forum pour la conscience et le développement, FOCODE, qui lance une campagne de 2 semaines de communication sur le phénomène de disparition forcée au Burundi dans le cadre de la prochaine célébration de la Journée internationale des victimes de disparition forcée. Écoutez plutôt Pacifique Nazwe, il est le président du FOCODE.
Il s'agit des personnes enlevées par le renseignement militaire en 2021. Ici, il s'agit de Jean-Marie Vianney Vadogomba, enlevé sur l'avenue de l'université en septembre 2021. Amuri Kwizera, alias Babu, enlevé devant sa résidence à Nyakabiga en juillet 2021. Christophe Niyonzima, chauffeur burundais qui venait d'être rapatrié du Rwanda, qui a été enlevé à Komasanganzira entre Moyinga et Ngozi en août 2021. Eddy Irakoze, vigile à l'ambassade de Russie au Burundi, enlevé à Musaga en septembre 2021. Caporal Innocent Gashirahamwe, ancien combattant des FNL, militaire burundais, enlevé à Charama en septembre 2021, l'enseignant Rémi Nyonsaba, militant du parti CNL, enlevé au chef-lieu de la commune Mbouyé en octobre 2021, Abdoul Ndaï Chimiyé, responsable de la jeunesse du parti CNL dans la zone Rougombo, enlevé à Marambo, c'est dans la commune Rougombo, en novembre 2021, et du commerçant Désiré Niyohire, militant du parti CNL, enlevé à Mugitabo, c'est au chef-lieu de la commune Kiganda, en novembre 2021. Cette déclaration donne des précisions sur l'organisation des enlèvements et des disparitions forcées par le renseignement militaire en 2021. Il insiste sur l'impunité des auteurs de ces enlèvements. Ici, nous avons par exemple souligné le fait que presque tous les enlèvements ont été opérés dans des lieux publics en présence de plusieurs témoins, ce qui signifie que les agents du renseignement militaire étaient assurés d'une totale impunité de leurs actes.
Pacifique Nazri demande au chef de l'état-major général de l'armée, le général Prime Niyongabo, de sortir de son mutisme pour montrer où sont ces 8 personnes portées disparues en 2021. Suivez encore une fois Pacifique Nazri, il est le président du Forum pour la conscience et le développement, FOCODE en sigle.
Nous avons par ailleurs rappelé que la plupart des responsables de ces enlèvements ont été par la suite envoyés dans des missions très lucratives à l'extérieur du pays et que le responsable du renseignement militaire, le colonel Ernest Moussaba, a été promu dans l'armée. Il est devenu aujourd'hui le responsable de la logistique de l'armée, ce qui est le poste le plus convoité après celui du chef de la force de défense nationale du Burundi. C'est donc dans ce sens que nous avons encore une fois demandé au général Prime Niyongabo, chef de la force de défense nationale du Burundi, de sortir de ce silence dans lequel il s'est muré depuis 2 ans pour dire au peuple burundais où est-ce que l'armée a mis toutes ces personnes enlevées en 2021. Nous demandons au président Evariste Ndayishimiye de concrétiser ses promesses formulées en décembre 2021 et en juillet 2022, la promesse, l'engagement de châtier les auteurs de ces atrocités. Encore une fois, nous dénonçons le comportement inadmissible de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, qui continue à couvrir ces crimes odieux. Et enfin, nous lançons un appel vibrant aux partenaires du Burundi de ne pas ignorer ce phénomène de disparition forcée, d'exiger des autorités burundaises des enquêtes et des sanctions contre les auteurs de ces crimes contre l'humanité.
Inzamba. Poursuivons l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée par la page économie. Pour que le Burundi puisse atteindre le développement, il y a des préalables que le gouvernement doit mettre en œuvre. C'est notamment la non-ingérence des autorités dans le secteur économique du pays. Il doit connaître la limite dans ses champs d'intervention et chercher des techniciens compétents, même étrangers, dans tous les domaines. Le point de vue de Faustin Likumana, directeur national de l'ONG Parsem, Parole et Action, pour le réveil des consciences et le changement des mentalités. C'est au moment où ce mercredi, cette ONG a sorti un livret intitulé « Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 », un livret sur lequel le Burundi peut s'appuyer pour atteindre ses objectifs. Suivez Faustin Likumana, il est le président du Parsem.
Redéfinir le rôle des acteurs. Le gouvernement va se considérer comme il va tout faire pour tout orchestrer, pour tout régenter. Il faut en venant qui clarifie les missions des acteurs, le secteur privé, les institutions politiques, les ONG, la société civile, les confessions religieuses. Il faut la clarification de la mission de chaque acteur. Sinon, le gouvernement est bon à tout faire, fixer les prix, improviser dans tout et rien. Il faut quelque part avoir là où l'État est efficace. Mettre sur pied quand on est ciblé un mécanisme bien appuyé de production des statistiques pour l'évaluation régulière. Les statistiques aident à
à s'évaluer régulièrement. Même au niveau local, même au niveau central. Tu vois qu'ici au Burundi, l'usage des chiffres, vraiment, il est relégué au second plan. Il est rare, dans la bouche de nos autorités, entendre les évaluations qui se basent sur des statistiques fiables. Mettre ces pieds en cadre institutionnel de mise en application de cette vision spéciale. On ne fait pas vouloir mettre en application la vision avec des structures classiques qui sont là. Ailleurs même, il faut, on fait une étude spéciale ou un ministère spécial chargé de suivre la mise en application de la vision. Parce que la vision, c'est comme une date, un événement fatidique qui influence le destin d'un. Il faut la stratégie de mobilisation des ressources humaines compétentes. Même des cabinets d'experts étrangers peuvent être mis en contribution. Faut pas toujours considérer que la nomination dans les postes doit être politisée. Non, il faut des experts. Au cas de chercher recourir à l'expertise étrangère. Il faut une stratégie de mobilisation des ressources financières dans un cadre de bonne gouvernance budgétaire. Quand un pays, par exemple, a un niveau de réserve de change, 2 mois, alors que le minimum est 4,5 mois, le pays manque cruellement des ressources. Même l'analyse de la structure budgétaire actuelle coupe qu'il y a des difficultés au niveau du financement budgétaire. Pour mettre en application les programmes de développement, il faut aussi une administration forte, professionnelle et politique. Tous les cadres de l'administration qui deviennent des commerçants ici et là, le parti politique au pouvoir qui s'ingère tapissement dans les affaires de l'administration. Le président de la République est en train de crier qui sera les cadres de l'administration se donnent des privilèges dans le commerce ou partout dans les marchés publics. C'est parce que tout est orchestré au plus haut niveau. Pour ce du parti. La logique c'est toujours placer les hommes pour les récompenser. Pourquoi on ne parvient pas à différencier des postes politiques et des postes techniques? Non. Président trimé, il faut crever l'accès.
Un réfugié nommé Albert Minani a tragiquement perdu la vie mercredi dernier, non loin du camp des réfugiés burundais de Nyarugusu en Tanzanie, selon les déclarations de son épouse qui se trouvait à sa compagnie. 3 hommes tanzaniens seraient responsables de cet acte criminel. Malheureusement, la police tanzanienne n'a pas réagi à cette tragédie, justifiant son inaction par le fait que le défunt aurait quitté le camp des réfugiés sans autorisation préalable des autorités du camp. Plus de détails avec Eddie Claude Nininaz.
Aux environs de 18h ce mercredi, Minan Albert et son épouse étaient en train d'arroser leur champ de tomates situé à 2 km du camp de Nyarugusu lorsqu'ils ont été confrontés à 3 hommes tanzaniens parlant le swahili. L'épouse de Minani ajoute que ces individus les ont approchés et ont commencé à agresser physiquement. Bien que la femme de Minani ait réussi à s'échapper en criant au secours, l'éloignement du camp a fait qu'aucune assistance ne soit apportée. Les voisins de la famille ainsi que l'épouse du défunt ont déposé une plainte auprès des autorités tanzaniennes dans le but de solliciter leur aide pour le transport du corps de la victime et pour l'ouverture d'une éventuelle enquête pour identifier ces criminels. La police n'a mené aucune action.
Nous avons accompagné cette femme à la police en présence des membres des Sungusungu. Arrivé sur le lieu, le chef de police appelé Osses a demandé si le crime avait eu lieu à l'extérieur ou à l'intérieur du camp. La femme a déclaré que cela s'était produit à l'extérieur du camp, tandis que le chef des Wasungusungu a précisé que c'était à l'extérieur du camp, mais à une courte distance, environ 10 minutes. Suite à cela, le chef de police nous a demandé de quitter son bureau, tout en nous interrogeant sur l'autorisation de sortie accordée à la personne en question. Nous avons quitté les lieux sans prononcer un mot.
La famille de ces réfugiés réside dans la zone 11 du camp de Nyarugusu. Minan Albert, la victime, lui laisse une veuve et 7 enfants.
Merci à toi, Eddie Claude Nininaswe. Et c'est parti que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Passez une excellente soirée dominicale et à la prochaine.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.